Chapitre 22. Le groupe Helsinki. La mort est une dette qu'on ne paie qu'une fois. William Shakespeare. Le cœur d'Emma bondit dans sa poitrine. Pendant plus d'une minute, elle resta sans voix, encaissant la nouvelle avec stupéfaction, incapable d'articuler la moindre phrase. Kate avait engagé un tueur à gages pour supprimer Matt. Mais pour quelle raison? Parce qu'elle ne l'aimait plus et parce qu'elle voulait vivre avec Nick? Impossible. On ne tue pas les gens pour ça. Il suffit de divorcer. Avoir la garde exclusive de sa fille? Ça ne tenait pas debout non plus. L'argent? D'après ce qu'elle avait compris, Matthew n'avait pas de fortune et Nick était l'un des hommes les plus riches du pays. Quoi alors? Une vengeance? Emma essaya de mettre en ordre ses pensées. De quoi était-elle certaine? Kate n'avait jamais cessé d'aimer son grand amour de jeunesse, Nick Fitch. Après une longue période de séparation, elle avait manifestement renoué avec lui, mais elle avait aussi profité de cette promiscuité pour lui voler des informations confidentielles qu'elle avait vraisemblablement revendues à prix d'or pour pouvoir s'offrir les services d'un tueur à gages et éliminer son mari. C'est une histoire de fou. Il y avait forcément un lien entre tous ces événements, mais pour le moment, il lui échappait. Emma se prit la tête entre les mains. Sa nuque était ankylosée, ses jambes et sa cage thoracique douloureuses. Une autre question la taraudait. Pourquoi, en 2011, Matt était-il toujours en vie? Pourquoi le cascadeur avait-il finalement échoué à l'éliminer?
Tu es toujours au bout du fil, Romuald? Refais-moi écouter l'enregistrement, s'il te plaît.
L'adolescent s'exécuta. Emma s'arrêta sur cette phrase.
Vous devez absolument attendre mon appel pour entrer en action, et ce ne sera pas avant 21h. Si je ne vous contacte pas, vous laissez tomber, c'est compris?
Elle se souvint de ce que lui avait raconté Matthew. Le chauffeur du camion de farine qui avait percuté la voiture de sa femme le fameux soir de sa mort avait toujours prétendu qu'elle tenait son téléphone portable à la main. Et Matthew s'était imaginé que c'était lui que Kate était sur le point d'appeler pour le prévenir que la Mazda avait finalement réussi à redémarrer. Mais en réalité, Kate avait cherché à joindre le tueur à gages pour lui donner son feu vert. Un appel qui, grâce à l'accident, n'était heureusement jamais parvenu à son destinataire. Matt n'avait eu la vie sauve que parce que sa femme était morte avant d'avoir pu passer son appel funeste. Une vie pour une mort. Tout en jetant de fréquents coups d'œil vers le hall de l'hôtel, elle fit part de son raisonnement à Romuald, qui l'écouta avec intérêt. Ils avaient à présent beaucoup d'éléments, d'indices, de preuves. Mais l'essentiel leur échappait. Les motivations de Kate. C'était le chaînon manquant. Celui qui les éclairerait sur le sens de toute cette macabre affaire.
« Et Kate, ça donne quoi ?» finit par demander Emma.
« Comme prévu, elle a repris sa voiture et elle vient d'arriver à l'hôpital pour enfants de Jamaica Plain. »«
Rien d'autre ?»«
Il y a bien eu un truc, peut-être sans importance. »
commença l'adolescent. « Dis toujours ?»
Lorsqu'elle est revenue du Whole Foods, Kate s'est empressée de consulter sa boîte mail professionnelle et le seul courrier qu'elle ait ouvert et imprimé, c'est celui qui concernait les analyses de sang de son mari.
Celle que Matthew a faite ce matin dans le camion de la Croix-Rouge?
Oui. C'est étrange qu'on lui ait communiqué les résultats, non?
Je n'en sais rien. Je connais pas les procédures. Tu as eu accès à ce courrier?
J'ai accès à toutes les messageries de tous les membres du personnel,
rappela-t-il avec une pointe de fierté. Alors transfère-le-moi sur ma boîte mail.
Les résultats de l'analyse de sang de Matthew tenaient sur deux pages. Néophyte en la matière, Emma s'y plongea en essayant de rassembler ses maigres connaissances pour se repérer au milieu des noms barbares et des chiffres compliqués. En tête de liste, le bilan hématologique. Globules rouges, hémoglobine, hématocrite, VGM, globules blancs, lymphocytes, plaquettes, vitesse de sédimentation, fer, ferritine. La jeune femme passa d'une ligne à l'autre, espérant trouver un début de piste, comparant les taux de Matthew avec la fourchette des dosages qui accompagnait chaque recherche. Elle poursuivit par le bilan biochimique, glycémie, créatinine, acide urique, les enzymes, les gamma GT, les transaminases, la TSH, le bon cholestérol, le mauvais,
Foie, thyroïde, rein, tout semble normal. Elle relut l'ensemble sans rien remarquer de particulier, à l'exception d'un petit cadre dans le coin droit du document précisant « Phénotype érythrocytaire rare, groupe Helsinki ». Emma se redressa sur sa banquette. Le groupe Helsinki ? Qu'est-ce que cela signifie ? Elle fixa l'écran, attendant un déclic qui ne vint pas. Ses derniers jours avaient été éprouvants, mais il l'avait libérée de sa peur et obligée à sortir de sa carapace pour faire preuve d'audace. Là, pourtant, elle séchait. Elle aurait eu besoin de l'aide d'un biologiste ou d'un médecin, mais elle n'en connaissait aucun. Elle tourna le visage vers la fenêtre en soupirant. Le soleil du début d'après-midi éclaboussait la rue, se reflétant dans les nombreux monticules de neige qui jonchaient les trottoirs. Même si un début de migraine la tourmentait, elle avait l'esprit en alerte. En passant mentalement en revue tout son carnet d'adresses, elle se rappela que le mari de sa psychologue dirigeait un laboratoire d'analyse médicale dans l'Upper West Side. Son labo était dans le même immeuble que le cabinet de son épouse, mais Emma n'avait fait le rapprochement que lorsque le couple était venu dîner un soir à l'Impérator. Le problème, c'est que Margaret Wood était en vacances à Aspen. Emma avait bien son numéro de portable, mais la psychothérapeute ne répondait jamais directement aux appels de ses patients et encore moins sur son temps de repos. Elle essaya malgré tout, tomba sans surprise sur le répondeur et laissa un message la suppliant de la rappeler au plus vite. « Une question de vie ou de mort », avait-elle précisé. La psy dut croire qu'elle était sur le point de sauter du haut du Brooklyn Bridge parce qu'elle la contacta dans la minute qui suivit. Emma s'excusa et lui expliqua qu'elle avait besoin dans l'urgence d'un renseignement capital que seul son mari était susceptible de lui fournir.
« Je suis au sommet d'Aspen Mountain, une paire de skis au pied. Mais si vous tenez à joindre Georges, il est resté en bas des pistes à siroter des bourbons à l'Ajax Taverne. Je vous envoie son numéro de portable. »
« Monsieur Wood ? » ?»«
Lui-même ?»«
Je suis confuse de vous déranger sur votre lieu de vacances, mais je vous appelle sur recommandation de votre femme. »« grogna l'homme d'un ton peu engageant. « Peut-être vous souvenez-vous de moi, Emma Lovenstein. J'étais votre sommelière lors d'un repas l'année dernière au restaurant l'Impérator. » À cette évocation, la voix de George Wood se fit plus enjouée.
« Je m'en souviens très bien. Une soirée délicieuse. En partie grâce à vous, d'ailleurs. » Vous m'aviez conseillé un porto fabuleux pour accompagner mon roquefort.
C'est exact.
Un Quinta d'un Oval, si je ne m'abuse.
Oui, un Quinta d'un Oval National Vintage de 1987.
Il paraît que le millésime 1964 est encore meilleur.
1963, plus exactement, corrigea Emma. C'est un millésime légendaire, mais il n'en reste plus que quelques bouteilles. Si ça vous fait plaisir, j'essaierai de vous en trouver une. « Monsieur Wood, j'aurai quelques questions à vous poser, si cela ne vous ennuie pas. »«
Bien sûr, jeune fille. Tout ce que vous voudrez. »
Emma se pencha sur son écran pour ne pas faire de faute de prononciation. « Qu'appelle-t-on un phénotype érythrocytaire rare ?»«
Ah, le sang. C'est tout de suite moins glamour que le vin, n'est-ce pas ? Encore que nos métiers ne soient pas si éloignés. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, comme disait notre ami. »
Ravi de son bon mot, il partit dans un grand éclat de rire. « Donc, un phénotype érythrocytaire rare ?» répéta Emma en tentant de masquer son impatience.
« C'est simplement le jargon utilisé par les biologistes pour parler d'un groupe sanguin rare. »«
Rare comment ?» George Wood se racla la gorge.
« Vous connaissez le principe des groupes sanguins, Emma ?»«
Oui, enfin, comme tout le monde, je connais les quatre grands groupes, A, B, AB et O, ainsi que le principe des rhésus positifs ou négatifs.
C'est un début, mais c'est en fait beaucoup plus complexe que cela. Peu de gens le savent, cependant il y a certains individus qui ne sont ni A, ni B, ni AB, ni O.
Vraiment ?
Oui, leur groupe sanguin est appelé Bombay, du nom de la ville indienne où cette particularité est apparue aux scientifiques pour la première fois. D'autres personnes ne sont ni rhésus positifs ni rhésus négatifs. On parle alors de phénotype nul. Et ce ne sont là que deux exemples parmi d'autres. Pour faire simple, Un groupe sanguin rare se définit par l'absence d'un ou de plusieurs antigènes que l'on trouve habituellement dans les systèmes des autres groupes.
La voix du professeur Wood avait repris de la vitalité. Il prenait manifestement plaisir à dispenser son savoir.
La spécificité de ces phénotypes les conduit à produire un certain type d'anticorps qui risque, par exemple, de provoquer des réactions de rejet en cas de transfusion ou de greffe. Les bombes notamment ne peuvent être transfusées qu'avec du sang présentant les mêmes caractéristiques que le leur.
La jeune femme posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres.
Et le groupe Helsinki, ça vous dit quelque chose ?
Le biologiste émit un gloussement de satisfaction.
Ah, le groupe Helsinki. Bien sûr, un groupe encore plus rare que vos bouteilles de Porto de 1963. On classe sous ce vocable des individus qui combinent plusieurs phénotypes érythrocytaires extrêmement rares. À ma connaissance, seule une douzaine de personnes appartenant à ce groupe sont répertoriées sur le territoire américain.
Et Matthew est l'un d'entre eux. Emma sentit l'excitation la gagner. Sa migraine avait disparu. Elle ne savait pas encore exactement comment, mais elle était certaine que la clé du mystère résidait dans ce groupe sanguin très rare que possédait Matthew.
Une dernière question, professeur, et ensuite je vous laisse profiter de vos vacances. Au cours de quelles circonstances découvre-t-on que l'on porte un phénotype rare ?
Eh bien, ça peut survenir en de multiples occasions. Le suivi d'une grossesse, un rejet lors d'une transfusion, un phénotypage un peu poussé chez un patient donneur de sang. Lorsqu'un laboratoire repère un groupe rare, il doit le signaler dans un fichier national.
Je vous remercie beaucoup, professeur. Vous m'avez été d'une grande aide.
Je compte sur vous pour ma bouteille de Porto,
rappela-t-il, mi-sérieux, mi-taquin.
Je n'y manquerai pas.
Emma sentit de nouveau son cœur s'emballer. Elle avait trouvé l'information qu'elle recherchait depuis le début. Si elle n'en comprenait pas encore toute la portée, elle avait la certitude que l'appartenance de Matthew au groupe Helsinki était l'épicentre du mystère qui planait autour de Kate. Reste calme. Pour mettre de l'ordre dans ses pensées, Emma concentra son attention sur les reflets de nacre et d'absinthe que le soleil faisait chatoyer au fond de son verre. Elle décida de faire le point sur ce qu'elle savait de Kate et Matthew. Elle commença par reconstituer la trajectoire de leur rencontre. Elle convoqua ses souvenirs, se rappela les paroles de Sarah, la première femme de Shapiro. Automne 2006, Matt se rend à l'hôpital après s'être coupé avec un sécateur en jardinant. Aux urgences, son chemin croise celui de Kate, qui est de garde ce jour-là. Il sympathise, elle le soigne, lui fait quelques points de suture. Et sans doute une prise de sang. La jeune femme poussa plus loin son raisonnement. Si Kate a bien effectué des tests sanguins, elle a alors découvert, lors des résultats, que Matthew appartenait à un groupe sanguin exceptionnellement rare, le groupe Helsinki. Quelques jours plus tard, elle sort avec lui. Et quelques mois à peine après leur rencontre, elle l'épouse. Mais pourquoi ? Emma leva la tête et la vue du cascadeur la coupa dans ses pensées. Oleg Tarasov venait de rendre sa carte à la réception et se dirigeait vers la sortie. Elle se tassa sur la banquette en espérant qu'il ne la remarque pas et le suivit du regard le plus longtemps possible. Le téléphone collé à l'oreille, elle quitta le bar et sortit du Saint-Francis au pas de course.
Romuald, Tarasov est en train de se faire la malle. Je vais essayer de le suivre, reste en ligne. J'ai fait une découverte incroyable.
Moi aussi, j'ai quelque chose à vous raconter.
Plus tard, je... Bon sang!
Qu'est-ce qui se passe?
Je crois qu'il est en voiture.
Elle porta la main en visière pour se protéger de la réverbération. Contre toute attente, le voiturier de l'hôtel venait d'avancer un pick-up Bordeaux aux formes massives et à l'imposante calandre en croix ornée d'un bélier argenté. Il tendit les clés de l'énorme camionnette à Tarasov, qui se mit au volant immédiatement. Prise de court, Emma chercha désespérément des yeux un taxi. Elle demanda au voiturier de l'aider, mais déjà le pick-up se fondait dans la circulation, disparaissant progressivement de son champ de vision.
Merde ! Je l'ai perdu, Romuald ! Il a filé vers le parc !
Sur Boylston Street ?
Oui.
Il roule dans quoi ?
Un gros Dodge Bordeaux, mais...
Moi, je peux le prendre en filature.
Non, qu'est-ce que tu racontes ? Ne fais pas de... L'adolescent enfila sa grosse parka au col en fourrure et glissa son mobile dans sa poche. Il sortit de la chambre en hâte, dévalant les escaliers comme si sa vie en dépendait. En déboulant dans le hall de l'hôtel de luxe, il faillit faire tomber une vieille dame qui avançait péniblement, accrochée à son déambulateur, trébucha sur son bichon maltais et renversa un garçon d'étage qui portait des flûtes de champagne sur un plateau.
« Pardon, désolé, excusez-moi, je... »
Il se rua sur le parvis du Four Seasons. Là, il repéra un portier, sanglé dans un uniforme sombre, orné de boutons dorés, qui aidait une famille à décharger ses valises.
« Pour une fois, ne te pose pas de questions. »
Le moteur du véhicule tournait encore. En une fraction de seconde, Romuald s'installa sur le siège conducteur et accéléra brutalement. La portière se referma, tandis que le SUV abandonnait quelques traces de gomme dans un hurlement de pneus.